autour de nous des relents de fin du monde. Guerre, catastrophe, peuple entier dont l'existence même est remise en question, menacé. Avec la mondialisation des images, nous sommes forcément conscients que ça se passe tout près de nous, souvent à quelques heures d'avion. Injustice, destruction, déchets, mensonges. Bref, je n'allonge pas. Nous connaissons toutes et toutes, tous et toutes l'impuissance, la sensation d'angoisse parfois ou la déprime. Nous perdons peu à peu ce monde qui est le nôtre, les repères qui nous ont fondés. C'est déstabilisant. D'autres voix disent que ce que nous perdons, c'est le monde commun, celui où les expériences heureuses comme les plus dures étaient peu ou prou collectives. On y était impliqué à plusieurs, à beaucoup. Aujourd'hui, le monde est global. Les êtres humains prennent plus que jamais conscience de leur interdépendance quasi générale. Et pourtant, la solitude et l'individualisme n'ont jamais été si importants. Oublier le monde d'après qu'on a espéré suite à la pandémie. Écran, moi d'abord, immédiateté, égocentrisme et le retour de la loi du plus fort. À tel point que tout élan d'entraide ou contact social à l'improviste arrive comme un événement unique. Quand par exemple vous adressez la parole à quelqu'un dans les transports publics avec un grand sourire, les gens sont soit terrorisés comme si vous alliez leur sauter à la gorge, ça me sidère toujours parce que je ne pense pas que j'ai l'air agressive comme ça au premier abord, ou alors ils sont heureux comme si on leur avait offert le plus beau cadeau qu'ils aient reçu de la journée, voire même de l'année. C'est dire à quel point on devient seul, solitaire. Si on peut même pas recevoir. Moi, j'ai quelqu'un, il y a 2 semaines, il a eu peur. Je lui ai juste dit, oh ben, je vois que vous êtes chargé et tout, et il a fait, quoi? Je dis, mais je vais rien vous faire. C'est là qu'on voit à quel point on est dans un monde où les gens sont dans leur bulle pour eux, l'autre, mon Dieu, l'autre. À noter qu'impuissance aussi, qui est souvent notre cas ces temps quand on est face aux médias et à ce qu'ils nous annoncent, impuissance rime trop souvent bien avec désespérance. Comme si la vie commune, le bien commun, était définitivement privé d'avenir. Du coup, il y a plein de refuges possibles. L'alcool, l'indifférence, le repli total, le rejet total de l'autre. Et pourtant, là au milieu, il reste des femmes et des hommes debout, qui ne demandent qu'à devenir très nombreux, toujours plus nombreux. Même au cœur de l'absurde et du non-sens, ils cherchent du sens, prennent soin de l'autre, de ce monde qui pourrait encore nous être commun. Alors au milieu de tout ça, on fait quoi des textes bibliques? On peut se dire, ouais, t'es pas assez inutile, bon pour les initiés ou les gens qui sont un peu perchés hors de la réalité. Mais peut-être pas. Parce qu'après tout, ces écrits parlent de l'homme, de la femme, des peuples, de la paix, de la justice, du pardon, de la réconciliation, des conflits, de la fraternité. Et puis les évangiles nous parlent de Jésus, le Christ, homme de Nazareth, de Palestine donc. Trait d'union filiale et fraternelle entre Dieu et l'humanité en espérance de plénitude. Dans les 3 passages entendus ce matin, nous pouvons chercher des signes, des pistes fragiles pour avancer de quelques pas. Le psaume 8 est un hymne de gratitude à la création offerte. Placé sous la responsabilité de l'être humain, soit dit en passant, l'être humain qui est censé lui donner tout son sens. Voilà qui donne à penser. Sur les chemins caillouteux de notre existence, la gratitude et la joie sont essentielles. C'est pour ça que ce psaume est si beau et qu'il faut le relire. Ce n'est pas juste les petits moments joyeux, non. C'est cette joie profonde qui peut s'inviter à l'improviste sans qu'on sache vraiment pourquoi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'arrive tout d'un coup d'être joyeuse parce que, je ne sais pas, je descends de chez moi au funiculaire après, et le ciel est extraordinaire. Et ce n'est pas juste « oh, c'est beau », c'est « oh, c'est incroyable ». Et ça, on en a ô combien besoin. À notre culte d'installation, mon collègue parlait de la joie, une énergie haute, une énergie qui ouvre les possibles. La joie permet un oui inconditionnel à la vie, au don, à la relation, envers et contre ce monde désabusé, cynique et si souvent désespéré. La joie et la gratitude sont partie intégrante de notre démarche de foi. Elles la fondent. Du moins, c'est le projet. Seulement, ça se cultive. C'est comme un jardin. Ou alors, elles se pratiquent au quotidien pour se développer, un peu comme un entraînement régulier développe des muscles. Vous savez, quand on refait un effort et puis que tout d'un coup on découvre des muscles dont on avait oublié l'existence, ça peut être un peu ça, le surgissement de la joie. Enfin, le passage de l'évangile de Jean que nous avons entendu nous rappelle que la foi n'est pas un long fleuve tranquille, ni un confort d'habitude et de certitude. Cette terre créée, ce monde offert ont été abîmés. Ils s'abîment. Pourquoi ? Ils s'abîment à cause de l'obstination humaine à ne pas accueillir avec gratitude le bon, le beau et le juste. La peur et la méfiance ne cessent d'augmenter. Or, ce sont des énergies basses, mauvaises conseillères. La peur et la méfiance tirent vers le bas. La destruction, la division. Elles érigent des barrières et des murs. Elles font reculer la possibilité d'un monde commun. Or, si la foi est d'abord gratitude et reconnaissance, elle est aussi fermement un non à ce qui abîme. Elle est un chemin de résistance qui s'oppose, même avec colère parfois, à la trahison de la vocation première de l'être humain, la nôtre, celle d'imaginer et de donner du sens en vue d'un monde meilleur. Il n'y a pas très longtemps, un jeudi, je crois il y a 2 semaines, le 15 mai, je suis allée écouter Marion Müller-Kollar à Tavannes, une théologienne franco-suisse qui fait partie de mes maîtres à penser. Et je me suis fait gronder. Je suis allée discuter avec elle à la sortie pour qu'elle me dédicace son livre « Croire, qu'est-ce que ça change ?» Et puis je lui ai parlé des doutes que tout le monde a, du repli, de la peur aussi au sein des églises qui veulent se cramponner à ce qu'elles ont parce qu'elles ont la trouille d'aller vers l'extérieur, etc. Et elle m'a grondée. Elle m'a dit « En tant que témoin de l'Évangile, nous n'avons pas le droit au cynisme. Si nous, qui voulons suivre Jésus-Christ, nous devenons nous aussi cyniques, alors qui va parler de la vie, d'un monde possible, de l'espérance ? Qui va parler des liens ? Qui va parler du monde commun ? Je peux vous dire, ça m'a réveillée tout net, hein ? Ça m'a mis les doigts dans la prise, comme on dit. Et j'étais très contente de l'avoir rencontrée, rien que pour ça. Oui, la foi est un chemin de résistance. Elle dit non à tout ce qui abîme, selon la volonté première du Dieu que nous cherchons sur notre chemin de foi. Enfin, il y a ce texte de Paul aux Romains, hymne à la promesse d'une paix, d'une réconciliation qui de toute façon ouvrira des choses nouvelles. Il y aura toujours un horizon d'espérance que rien ni personne ne pourra abolir. Ce n'est pas une drogue, ni du blabla pour patienter. Cette promesse permet toujours le pas suivant, le geste, la parole qui ouvre la vie. Parfois c'est rude, c'est une vraie lutte. Menée par les acteurs et témoins de cette paix, qu'ils se réclament de Jésus-Christ ou pas d'ailleurs. Qu'ils soient membres de l'Église visible ou invisible. Nous ne détenons pas ni le Christ ni de vérité absolue. L'important, c'est de nous mettre ensemble avec toutes et tous nos frères et sœurs d'humanité pour cette lutte. C'est difficile, mais cette lutte, elle respire toujours, parce que le souffle de Dieu souffle en liberté. C'est le souffle de la paix, de la consolation, ce souffle qui vient de Dieu et qui n'est jamais coupé. Dans 2 semaines, pour les catholiques, nos frères et sœurs, c'est le dimanche de la Trinité. Sans vouloir ici vous reprendre les nombreuses et interminables explications théologiques, parfois fumeuses, sur la Trinité, cette affirmation du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas seulement catholique, cette Trinité, parce que cette notion a été reprise par nos prédécesseurs et même par des réformateurs, eh oui. Évoquer la Trinité nous dit que Dieu n'est pas ce socle immobile et tout-puissant. Il est Père. Il nous a donné la création pour laquelle nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude d'y vivre. Il est Fils, en colère parfois et bouleversé, qui mène le combat contre tout ce qui a été abîmé. Il fait même passer l'amour de Dieu jusqu'au fond de la tombe pour faire mourir la mort. Et puis il est Esprit Saint, souffle de vie, compagnon dans nos déserts et nos oasis. Sur le fil de la vie, des liens fortifiés vers des lendemains toujours possibles. Nous en sommes désormais les passeurs en actes et en paroles. À nous de combattre la méfiance, le cynisme, la peur de l'autre. À nous de dire le Dieu de Jésus-Christ, qui se reflète dans le regard de l'autre, qui annonce la vie et l'amour plus fort que la mort. À nous de tisser, de bâtir et d'inventer dans notre quotidien nos rencontres et nos relations des manières concrètes, vivantes et simples de dire qu'un monde commun ne peut passer que par nous, que c'est notre vocation première et qu'ensemble, on peut aller plus loin. À nous de planter cette paix et cette espérance sans relâche, comme des graines de vie au milieu du chaos du monde et de sa misère, avec nos moyens, nos forces et nos fragilités. Pour montrer aussi que nos rencontres culturelles du dimanche ne sont pas seulement une sorte de refuge à l'abri du monde, mais au contraire un ferment pour faire lever la pâte d'une vie renouvelée dans un monde commun espéré et retrouver. Avec l'aide de l'Esprit-Saint, souffle promis et donné depuis la Pentecôte. Ainsi soit-il.